L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Et depuis hier et aujourd'hui encore, réunion d'un comité d'urgence de l'OMS autour du virus Zika. Oui, le Zika, justement, hein, qui se répand comme une traînée de poudre dans toute la zone Amérique, Caraïbes, justement. Et chaque jour qui passe nous apporte, eh bien, une nouvelle révélation, donc, sur le Zika. Question ce soir, est-il plus dangereux qu'on ne le pensait? J'accueille le professeur Delfraissy, bonsoir.
Bonsoir.
Jean-François Delfraissy, directeur de l'Institut Microbiologie et Maladies Infectieuses de l'INSERM. Vous étiez venu il y a 2 mois dans les décodeurs de l'écho à mes côtés sur BFM Business. C'était au début, aux prémices du développement, en tout cas dans la zone Amérique-Caraïbes. Et depuis, on apprend un certain nombre de choses. Aujourd'hui encore, hein, c'est l'INSERM notamment, qui révélait que le virus peut aussi affecter la moelle épinière et déclencher une myélite aiguë, c'est-à-dire une atteinte sévère des membres, susceptible de laisser des séquelles motrices. Alors, qu'est-ce qu'il faut en penser ?
Il faut en penser que d'abord, on étudie beaucoup plus Zika depuis 2 mois qu'on ne l'avait fait depuis de très nombreuses années. Bon, et qu'il y a une sorte de territoire expérimental sur lequel les scientifiques peuvent regarder ce qui se passe. C'est vrai au Brésil, beaucoup, un peu en Colombie, et puis bien sûr dans les Antilles françaises, avec les 3 départements français d'outre-mer. Alors, l'épidémie, elle, se continue. C'est parti. Il y a une contamination, donc on le rappelle, hein, c'est par un moustique, l'Aedes. Hein.
La contamination, l'OMS, hein, puisque vous étiez encore hier à Genève, lors de cette réunion d'urgence de l'OMS, qui s'attend à une propagation explosive de cas de Zika dans les Amériques, avec 3 à 4 millions de contaminations cette année. Vous avez cité le Brésil, hein. Plus d'1,5 million de cas de Zika depuis 2015 et presque 600 cas de microcéphalie. Microcéphalie, c'est l'une des conséquences. C'est la tête du bébé qui est toute petite.
Hein. Voilà, on rappelle que Zika, en soi, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave.
Vous nous l'aviez dit. Et vous maintenez ça ce soir.
Et je vous le redis ce soir, dans l'immense majorité des cas. Et puis, il y a
deux
problèmes.
Dans l'immense majorité des cas, on ne s'en rend pas compte même.
On ne s'en rend pas compte. 80%, c'est strictement asymptomatique. Ouais. 20%. Avec des signes qui sont assez banaux, de la fièvre, des douleurs musculaires et puis une éruption cutanée.
Mais
et puis il y a deux problèmes.
Voilà.
Le problème qui est le problème neurologique et puis le problème des microcéphalies pour les enfants qui naissent d'une maman qui a fait développer un Zika durant la grossesse. Les deux choses sont assez liées d'ailleurs finalement probablement parce que ça témoigne d'une sorte de tropisme, c'est-à-dire d'intérêt du virus Zika vers les cellules neuronales. Et donc vers des cellules qui sont dans la plasticité, dans la construction même du cerveau de l'enfant. Et donc, premier type de complications, des complications neurologiques. Jusqu'à maintenant, il avait été décrit des Guillain-Barré. Hein, c'est dans notre jargon un peu médical.
Le Guillain-Barré, donc, c'est un syndrome qui peut entraîner donc une paralysie des
membres, oui,
et une atteinte respiratoire.
Voilà. Et qui, dans 80% des cas, ne nécessite pas de la réanimation, et dans 20% des cas, nécessite un passage en réanimation. On récupère pratiquement dans tous les cas du Guillain-Barré au bout de entre 1 mois et 6 semaines. Bon. Il n'y a pas de traitement spécifique. Il y a des traitements, par contre, qui permettent d'accélérer la guérison du Guillain-Barré.
Alors, il y a du Guillain-Barré, en effet. Donc,
et puis, on vient de décrire,
voilà.
Là, en Guadeloupe, un cas de myélite.
Sur une fille de 15 ans.
Sur une fille de 15 ans, et qui, disons-le tout de suite, a récupéré en grande partie de cette atteinte myélite. C'était le premier cas.
Alors, avait cru qu'elle serait paralysée des 4 membres.
Parce qu'on avait cru que ça serait beaucoup plus grave et qu'elle ne récupérerait pas. Et en fait, elle a en grande partie récupéré, pas encore totalement, mais elle est évidemment sous surveillance.
Alors, professeur, on a ces révélations. Donc, on nous dit, voilà, ça peut affecter la moelle épinière. On a le cas de cette jeune fille qui, heureusement, vous nous dites, en Guadeloupe, dans les Antilles françaises, va mieux qu'on ne croyait. Il y a le lien de cause à effet entre Zika et microcéphalie. Vous nous l'avez dit également. Le lien de cause à effet entre Zika et le syndrome de Guillain-Barré. Finalement, est-ce que c'est plus grave que prévu ?
Eh bien, à mes yeux, je ne pense pas par rapport à ce que je vous ai dit dans la première quinzaine de janvier.
Vous maintenez que...
Je maintiens que ça reste une épidémie de très grande ampleur, exceptionnelle par son ampleur, pour des raisons qu'on ne connaît pas encore totalement. je maintiens qu'il peut y avoir un certain nombre de cas d'atteinte neurologique, et puis qu'on a le problème des microcéphalies et de ces atteintes chez l'enfant. Alors après, il y a une sorte, mais c'est normal en médecine et en science, il y a actuellement un débat sur la fréquence de ces microcéphalies. Ce qui a changé par rapport à ma position de janvier, en janvier je vous avais dit, le lien de cause à effet entre Zika et la microcéphalie n'est pas totalement établi. Là je suis plus clair, si, la majorité des scientifiques, on pense qu'il y a vraiment un lien de causalité. Par contre, à quel niveau il se situe ? Est-ce que c'est un lien fort ? Est-ce que c'est un lien faible ? Et là, il y a des choses assez contradictoires. Pour vous donner un ordre d'idée, on a regardé ce qui s'était passé en Polynésie, il y a maintenant 2 ans, sur cet aspect des microcéphalies, et on a trouvé plutôt un chiffre de l'ordre de 1% des femmes enceintes qui auraient été atteintes par Zika et qui développeraient une microcéphalie. C'est déjà beaucoup, c'est déjà énorme. Puis là, il y a un papier de Brésilien qui vient de sortir et qui évoque plutôt autour de 7-8% ou 35% des femmes dites symptomatiques à Zika. C'est-à-dire c'est considérablement plus. Je pense que la vérité, elle est évidemment pas. Elle se situe probablement plutôt vers le milieu. Donc il y a encore, le niveau n'est pas clair.
Alors, professeur Delfrécy, on va rappeler quand même quelques éléments de base sur Zika. Comment se transmet la maladie ? Comment est-ce qu'on chope ce virus Zika ?
Alors, c'est essentiellement par les moustiques, hein, et par un moustique de la famille des Aedes, qui s'est répandu de façon assez massive, qui était essentiellement dans la zone intertropicale, qui pique, qui lui-même résiste bien au Zika. Il peut être à la fois porteur de Zika et porteur de la dengue, par exemple. Ouais. Hein, et puis ensuite, il transmet, il accumule le réservoir Zika, si je peux dire, et puis il le transmet en allant piquer un autre humain. Donc c'est bien une transmission qui se fait par l'intermédiaire d'un vecteur, qui est le moustique. Ce qu'on a appris de façon récente au cours des dernières semaines, c'est qu'il y avait une transmission sexuelle possible du Zika. C'est-à-dire qu'on peut retrouver, chez des personnes ayant fait une infection à Zika, du virus Zika dans le sperme, des semaines, voire maintenant plusieurs mois, après qu'elles aient fait une infection à Zika. C'est probablement un phénomène rare, c'est un phénomène exceptionnel comme mécanisme de transmission, mais on peut dire maintenant, là, début mars, que ce phénomène existe, cette transmission sexuelle du Zika.
On ne sait pas tout encore sur le Zika, malheureusement, hein, professeur Delfrécy. Si on se revoit dans 2 mois, on aura découvert encore d'autres choses.
On aura évolué.
D'autres modes de transmission.
On aura évolué. Par contre, je reste assez clair sur l'idée que on va avoir 2 ou 3 millions de personnes touchées.
Oui.
Ce qui est évidemment très lourd. Après, je reste avec l'idée que Zika n'est pas une maladie hyper grave, sauf ce problème des microcéphalies. Et que donc, je vous avais dit, je maintiens ce mot, le bien précieux des femmes enceintes sur cette zone endémique de Zika, et c'est elle qu'on doit protéger au maximum.
Et au moment, justement, où on prenait la parole, hein, l'OMS, qui était toujours en réunion donc à Genève lors de ce comité d'urgence, lançait un appel, conseillait aux femmes enceintes de ne pas se rendre dans les zones affectées. Voilà donc cet appel, comme d'autres gouvernements également ont dit à certaines femmes, si vous voulez faire un enfant, attendez, quelque part, hein. C'est un petit peu le conseil qui a été donné. Hein.
Oui, c'est vraiment considérer la femme enceinte comme, une fois de plus, le cœur de cible de notre action contre Zika. Pour protéger ces femmes enceintes, pour leur éviter d'être infectées. On est dans une prévention. Notre ministre de la Santé, qui a fait une tournée dans les Antilles il y a maintenant une semaine, Madame Touraine, a préconisé et a recommandé qu'il y ait même une échographie fœtale qui soit faite tous les mois chez les femmes enceintes de ces 3 départements d'outre-mer, et que ça serait pris en charge, donc avec un suivi qui va être optimisé. C'est une décision vraiment importante autour de ça. L'ensemble des gynécologues doit s'y mettre. Et puis, on compte beaucoup aussi, moi je compte beaucoup, sur le fait que les associations de femmes, puisqu'on est la journée de la femme aujourd'hui,
le 8 mars,
doivent s'emparer de ça pour aider justement ces jeunes femmes qui sont dans une situation difficile, pour pouvoir répondre à leurs questions, et pas seulement que ça soit des médecins, mais qu'il y ait aussi des femmes qui leur répondent.
La propagation quand même, propagation explosive, là encore je cite l'OMS, hein, vous assistiez encore à la réunion hier, professeur Delfrécy, ça semble extrêmement rapide quand même cette propagation, non ?
Elle est rapide, mais elle n'est pas tellement plus importante, par exemple, que ce qui s'était passé avec d'autres virus comme le chikungunya à une période. Hein.
Oui.
On est là dans ce phénomène des arboviroses. Et on pourrait s'interroger en disant, justement, voilà, pourquoi on parle de 2 ou 3 millions de personnes? Est-ce que ce virus Zika a muté par rapport à ce qu'on connaissait, puisqu'il a 40 ans d'âge?
Oui, hein, bien sûr, c'est pas arrivé au mois de janvier.
Bien, les données qu'on a, par exemple, nous, en France, par rapport à la Polynésie, où il y a eu une épidémie avec pratiquement 50 000 personnes, mais où tout le monde, et les médias n'en ont absolument pas parlé il y a 2 ans. Bon. On a regardé si les virus étaient les mêmes, et il n'y a pas eu de mutation. Donc, ce virus Zika de début 2016 ne paraît pas plus agressif, plus pathogène, que le virus Zika il y a 2 ans.
Vous citez le chikungunya, on parle du Zika ce soir, Ebola également. Vous avez l'impression que la propagation de toutes ces maladies va encore plus vite, donc, dans ce 21e siècle? C'est quoi? C'est parce qu'on voyage, tout simplement?
Non, la réponse est oui. Hein. La crise sanitaire liée à des virus émergents est quelque chose qui est clairement quelque chose de nouveau, de beaucoup plus fort pour le 21e siècle. Ouais. Moi, je dis qu'il faudra la mettre à l'agenda de nos crises, comme il y a les crises du terrorisme, il y a les crises bancaires, il y a la crise sanitaire qui devient très vite autre chose, d'ailleurs, une crise sociétale et politique.
Alors justement, face à cette crise d'un nouveau genre sur laquelle il faut vraiment insister, vous nous dites, professeur, est-ce que la mobilisation est au rendez-vous? Alors je cite pêle-mêle quelques initiatives. Barack Obama qui, le mois dernier, avait proposé de débloquer presque 2 milliards de dollars pour la prévention, la recherche sur Zika. On a l'Agence européenne des médicaments qui va créer un comité d'experts. On a certains gouvernements dans cette zone, apparemment peut-être certains débordés, qui disent simplement aux femmes enceintes, surtout protégez-vous, les femmes qui veulent avoir des bébés, pareil, renoncez-y. Est-ce que ces pays sont bien équipés, justement? Est-ce que la mobilisation bat son plein?
Alors, moi, je crois que oui. C'est-à-dire que j'ai connu la crise Ebola il y a 2 ans, et j'ai vu d'où on partait. C'est-à-dire, on partait d'états sanitaires extrêmement difficiles dans ces trois pays d'Afrique de l'Ouest.
Libéria, Sierra Leone et la Guinée.
Sur laquelle la France était plus particulièrement impliquée.
Oui.
Là, regardez, on est dans des pays qui sont beaucoup plus évolués au niveau sanitaire. Le Brésil est un grand pays. Le Brésil est un pays qui a mis la sécurité sociale en place il y a maintenant plusieurs années. Le Brésil est un pays qui a répondu au sida avec les médicaments génériques. Nous sommes dans les 3 départements français d'outre-mer. On est en France.
On est en France, tout simplement.
On est en France,
bien sûr.
Donc on a un système sanitaire qui permet de répondre. Et on voit bien que ces crises sanitaires peuvent quand même exister. Donc l'enjeu, c'est finalement la capacité de réaction, à la fois dans le modèle de prévention, et puis de trouver peut-être un médicament et pour le futur un vaccin.
Alors un vaccin, justement, c'est aussi l'actualité, c'est Le Monde, le quotidien Le Monde, qui cet après-midi en parlait. Sanofi qui semble se lancer donc dans la course, une équipe de 80 scientifiques qui travaillent donc sur le développement d'un vaccin contre le Zika. Sanofi Pasteur qui va mettre plusieurs millions d'euros sur la table pour la phase de recherche préclinique sur Zika. Comment est-ce qu'on travaille sur la mise en place d'un vaccin contre une maladie, finalement, oui, qui a 40 ans, mais voilà, qui s'accélère quelque part. Il faut aller très très vite ou pas, professeur?
Oui, il faut aller vite, c'est difficile. Il y a maintenant ce qu'on appelle de très grandes plateformes de conception, de fabrication d'outils vaccinaux. Bon, et Sanofi est quand même un des spécialistes sur Sanofi Vaccin. Sanofi s'est beaucoup engagé au cours des dernières années contre la dengue.
La dengue.
Et a mis en place un vaccin contre la dengue qui, s'il n'est pas totalement actif en termes de prévention, a une mesure et a une activité très, très significative.
Donc, contre la fièvre jaune aussi.
Contre la fièvre jaune.
Donc tout ça est très cousin.
Voilà, il y a quelque chose de cohérent qu'un très grand laboratoire international, français mais international, se lance en effet dans la mise au point d'un vaccin. Il n'y a pas que Sanofi, il y a d'autres grandes industries pharmaceutiques qui sont également sur le sujet. Ce qui est nouveau aussi, c'est que des grandes organisations comme l'OMS maintenant poussent et organisent, je dirais, et rassemblent à la fois les scientifiques et les industriels pour aller le plus vite possible, qu'on donne les séquences au niveau des séquences, donc la série de ce que représente un virus, qu'on puisse le donner très rapidement aux industriels pour qu'ils puissent construire le vaccin ad hoc. Mais nous ne nous faisons pas d'illusions, quels que soient les effets d'annonce, il faudra du temps pour mettre un vaccin contre le virus Zika.
Vous parlez d'effet d'annonce?
Je parle d'effet d'annonce, c'est-à-dire que j'entends trop souvent de dire que si on y met des moyens considérables, on va trouver tout de suite le vaccin. Ah, et je dis que ça va être plus compliqué que ça.
Combien de temps?
Eh bien, on ne compte pas en jours, on ne compte pas en mois, mais on compte probablement en années.
Vous nous dites, Sanofi n'est pas tout seul. Il y a une course contre la montre, justement, entre tous ces laboratoires. Qu'est-ce qui fait que, voilà, il faut absolument être le premier pour trouver le vaccin contre Zika?
Bien parce que Zika, je suis là ce soir, vous m'avez invité, alors que c'est somme toute, vous n'êtes pas une émission biomédicale.
Non. Hein,
c'est un problème sociétal. Donc un laboratoire qui répond à un problème sociétal change finalement sa donne et change son image. Bon, parce que en termes ensuite de rentabilité du vaccin, si on s'interroge, qui va-t-il falloir vacciner contre le Zika? Les femmes enceintes, ça sûrement, et les femmes en âge de procréer. Après, l'immense majorité des gens qui vont faire un Zika n'ont pas besoin tellement d'être prévenus. Donc, vous voyez, c'est beaucoup moins, par exemple, lourd que l'impact économique de la dengue. Hein. Zika, une fois de plus, 80% asymptomatique. Donc, l'enjeu, finalement, du vaccin, il est chez les femmes en âge de procréer.
Je vais être un peu cynique. C'est important, donc, pour un laboratoire, donc, finalement, de se battre pour une maladie qui, quelque part... lorsqu'elle apparaît, on s'en rend absolument pas compte. Lorsque le moustique tigre pique, on s'en rend absolument pas compte, justement. Est-ce que le laboratoire a des raisons de se mobiliser? Alors, je suis évidemment cynique en disant ça. Hein.
Moi, je veux vous répondre en tant que médecin et scientifique. Ouais. Je ne sais pas si c'est important. Je ne fais pas partie de l'industrie pharmaceutique. Ce que je sais, c'est aussi, probablement, c'est de sa responsabilité. L'industrie pharmaceutique, on en a besoin. Elle produit des médicaments qui sont efficaces, qui sont nécessaires aux citoyens. C'est aux citoyens du Nord qui ont les moyens, comme en France, comme en Allemagne, comme un certain nombre de grands pays du Nord. Eh bien, ils doivent aussi s'engager sur de grandes pandémies, à la fois en termes thérapeutiques, mais aussi en termes de vaccins, qui concernent les citoyens du Sud. Parce qu'il n'y a plus de Sud et de Nord avec ces maladies. Hein.
Elle voyage.
Et ça voyage, le Zika va voyager, on verra probablement quelques cas de Zika en France, pas beaucoup. Là aussi, je maintiens ma position.
En France continentale, en
métropole. Mais on en verra. Et puis, il y a d'autres virus qui bougeront plus que Zika. Donc, il n'y a plus de Nord et de Sud, donc c'est normal que l'industrie pharmaceutique s'engage. On la pousse, c'est nouveau. Elle est poussée par l'OMS, elle est poussée par un certain nombre de scientifiques, dont moi-même d'ailleurs, et c'est important.
Donc les laboratoires doivent y aller, bien entendu.
Ils doivent y aller.
Bien sûr, là, ma question, évidemment, j'essayais de voir qu'est-ce qui était... Parce que souvent, ce sont des entreprises qui cherchent la rentabilité, et c'est pour ça que j'essayais de poser cette question, quoi.
Elles ont la rentabilité ailleurs. Elles ont la rentabilité sur d'autres types de médicaments, sur d'autres types de vaccins. Mmh. Avec d'ailleurs des... C'est pas si facile non plus de pousser des vaccins en général. Hein. C'est quelque chose de difficile. Elles ont un rôle qui est complexe. Mais elles trouvent leur rentabilité ailleurs. Si on trouve sa rentabilité ailleurs, l'industrie pharmaceutique, ce n'est pas une industrie de construction de voitures. Mmh. C'est une industrie qui doit délivrer un produit, qui doit rendre service à un citoyen et garder la santé dans le monde. Le citoyen, il est au nord, il est également au sud.
Juste,
Je suis un peu nord-sud, mais c'est vraiment une position qui, dans le domaine des maladies infectieuses, il doit être porté.
Les maladies infectieuses, justement, coronavirus, grippe aviaire, Zika, chikungunya, enfin, on va refaire toute la liste. Comment prévenir, comment détecter la prochaine épidémie, professeur Delfraissy, justement?
Eh bien, c'est là toute la difficulté. C'est probablement mettre en place... Des réseaux d'alerte plus efficaces que ceux que nous avons actuellement. Ça a été le cas pour Ebola, où il y a eu beaucoup de temps perdu avant que le signal d'alerte remonte finalement aux autorités et qu'elles prennent des décisions et que l'OMS prenne des décisions.
11 000 morts au
final. C'est moins le cas pour Zika. On apprend quand même. Hein. Mmh. On apprend de ses échecs, comme dans la vie en général.
Donc on tire finalement
Zika,
des leçons de
Zika,
d'Ebola.
Zika, il y a eu des leçons tirées. Ouais. Avec un signal d'alerte qui a été beaucoup plus rapide que sur... On est plusieurs dans le monde, en France, en Europe, Commission européenne, aux États-Unis. J'étais à une réunion exactement sur ce sujet la semaine dernière, à quelques-uns de comment penser à construire un système de réaction plus rapide. Qui appuie sur le bouton? Comment on appuie sur le bouton? Et ça rejoint finalement que la crise sanitaire doit être mise dans l'index de nos crises, comme la crise économique et comme la crise du bioterrorisme, par exemple.
Qui appuie sur le bouton, justement? Est-ce qu'on est bien armé, justement? C'est l'OMS qui doit le dire.
C'est l'OMS. Je pense que c'est vraiment parce que
l'OMS est crédible.
C'est pas seulement un pays. Bien sûr, chaque pays doit avoir sa démarche sanitaire et sa démarche politique, mais il faut qu'elle soit partagée. Et il y a une organisation, l'Organisation mondiale de la santé. Donc il faut, elle est en cours de réforme pour pouvoir mieux s'adapter. Mais aux yeux de la France, en tout cas, et du gouvernement français, c'est pas ma position. Mais je la partage. Mais c'est une position gouvernementale que je suis en train de vous donner. Eh bien, c'est l'OMS qui doit porter ce message.
Et l'OMS est reconnue comme telle quand l'OMS dit quelque chose, décide quelque chose. Est-ce que c'est suivi des faits? Ou parfois, on va dire, à l'OMS, ils ont peut-être l'habitude, souvent, d'ouvrir le parapluie au cas où, etc.
Non, je pense que, si vous voulez, tout le monde est interpellé. Ouais. Au niveau des sociétés actuelles, vous-même d'ailleurs, en se disant, mais c'est pas possible, ils ont eu Ebola, ensuite Zika, et qu'est-ce qu'il va y avoir? C'est quoi le suivant? Où ils vont? Et en plus, quand vous nous interrogez, on ne vous répond pas totalement, parce que je ne vous ai pas dit quel allait être le suivant.
À quel endroit, voilà.
Ce que je peux vous dire, en effet, c'est que ça va sortir du sud, probablement, avec un virus, probablement. Oui. Est-ce que ça ira, touchera le Nord ou pas? Et en fait, la grosse enjeu, la grande question, c'est est-ce qu'un virus dans une pandémie est-il transmissible par voie respiratoire ou au contraire, il est transmis par contact ou par les moustiques? S'il est transmis par voie respiratoire, vous voyez immédiatement ce que ça peut donner, et où même des pays qui sont très avancés au point de vue sociétal et sanitaire peuvent être rapidement dépassés.
N'y résisterait pas. Ouais. Bon, très bien. Vous revenez dans 2 mois?
Je reviens dans 2 mois.
Dans les décodeurs de l'écho. Passionnant. Le professeur Delfrécy avec nous, directeur de l'Institut Microbiologie et Maladies Infectieuses de l'INSERM. Voilà l'occasion de refaire le point sur le Zika, justement, au moment où on apprenait que des grands laboratoires mondiaux, comme Sanofi, justement, tente de se lancer dans la lutte contre Zika au travers d'un vaccin. Voilà, c'est fini pour ce soir. Très très bonne soirée à tous. Rediff tout à l'heure de toute l'émission, aussi bien sur les marques et les sportifs qui jouent un petit peu avec les allumettes, le dopage notamment. On a parlé de Maria Sharapova ou le Zika. 23h tout à l'heure à la télé, à la radio, sur BFM Business, à tout moment sur le site internet. Puis on se retrouvera évidemment demain soir en direct à 19h. Bonne soirée, les décodeurs de l'écho reviennent demain.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.